tu vas aller. Allez mon grand. Allez mon grand. T'es grand aujourd'hui. T'es grand.
Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenues parce que t'es trop gentil.
On m'en fout ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant.
Bonjour aux sportives et aux sportifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier épisode de Time Out. Aujourd'hui, au menu, on va faire un récap de tout ce qui s'est passé cet été, parce qu'il y en a eu des événements sportifs. Avec moi, on va revoir l'Euro de football, parce que, bon, il y a des choses à dire. Ensuite, avec PA.
Bonjour.
Alors, on va parler de quoi, PA ?
De vélo, bien sûr, avec le Tour de France, magnifique.
Ensuite, avec Simon, on va parler de basket.
Je vais récapituler tout ce qui s'est passé cet été.
Et puis enfin, avec Oban.
Bonjour.
On va parler tennis, notamment l'US Open. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, on va revenir en juin dernier avec l'Euro de football. Il y a pas mal de choses à dire, notamment avec cette défaite de l'équipe de France en demi-finale contre l'Espagne dans un match sans saveur, à l'image tout simplement de la Coupe d'Europe qu'a fait la France. Ce match, on peut le résumer notamment avec un bijou signé de Lamine Yamal qui s'offre le prix du plus beau but selon les observateurs techniques de l'UEFA. Avec cette défaite en demi-finale et tout simplement cette Coupe d'Europe vraiment moyenne de cette équipe de France, il y a vraiment eu une remise en question de la place de Didier Deschamps. Est-ce qu'il aurait fait son temps ? Beaucoup le pensent, beaucoup trouvent qu'il n'a plus du tout le bon style de jeu adapté aux joueurs sélectionnés et beaucoup aimeraient le voir partir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Bah, en vrai, c'est vrai qu'il a un peu fait son temps, ça fait 10 ans qu'il est là, donc ça peut se comprendre que beaucoup veuillent son départ, surtout après un euro catastrophique comme celui qu'on a eu.
Vraiment, on voyait sur les réseaux sociaux des supporters français même pas étonnés de cette défaite et même pas déçus. Il disait, bon, bah, on a mérité, de toute façon, on n'a pas été bon.
Moi, selon moi, je trouve que la plupart des Français sont juste déçus de ce que propose l'équipe de France vis-à-vis des joueurs absolument incroyables qu'on a la chance d'avoir dans cette équipe. On pourrait faire tellement de belles choses. Et je pense que c'est plutôt ça qui est reproché aux sélectionneurs. Donc, à voir ce qui va se passer dans les années ou dans les mois à venir. Hein.
Bah, même offensivement, normalement, on a Kylian Mbappé et tout, on a Ousmane Dembélé. Et on a marqué qu'un seul but dans le jeu. Donc, c'est pas dingue, quoi.
Pour être arrivé quand même en demi-finale.
C'est clair.
C'est vrai que malheureusement, Didier Deschamps, il préfère poser le jeu, faire des passes et après trouver une brèche et attaquer directement. Alors qu'on a des joueurs qui sont très rapides, qui sont un peu faits plus, selon moi, pour l'offensif, pour une bonne contre-attaque, un peu comme le style de jeu de l'équipe d'Espagne, je trouve. Donc, est-ce que Didier Deschamps, tout simplement, ne serait plus adapté pour notre équipe de France actuelle ? C'est la question que je me pose. Donc, on va continuer un peu dans la chronologie de cette Coupe d'Europe. On a retrouvé en finale, personnellement, les deux équipes que je voulais vraiment voir à cette finale, c'est-à-dire l'Angleterre et l'Espagne. C'était les équipes favorites et on a eu droit quand même à une très bonne finale avec une victoire 2-1 de l'équipe d'Espagne. Et d'ailleurs, j'aimerais quand même faire une petite parenthèse. Il y a une info qui est tombée il y a quelques jours où la FIFA a avoué qu'il y aurait dû avoir un pénalty pour l'Allemagne. Donc c'était en quart de finale, c'était Espagne-Allemagne. Et il faut savoir que ce match a fini avec une victoire de l'Espagne 2-1. Donc en fait, ce pénalty, s'il avait été accordé, ça aurait totalement changé le cours du match. Donc peut-être qu'on n'aurait pas eu l'Espagne à la fin, en finale. Ainsi, le football espagnol est vraiment sur le toit du monde actuellement, avec une équipe masculine incroyable, favori à mon avis pour la prochaine Coupe du Monde. Ils ont beaucoup de jeunes cracks, avec notamment Lamine Yamal, élu meilleur jeune du tournoi par l'UEFA. Et puis aussi, j'aimerais faire une petite parenthèse avec l'équipe féminine d'Espagne, justement, qui avait gagné aussi la Coupe du Monde. Donc on a vraiment le football espagnol victorieux partout, que ce soit même le ballon d'or chez les féminines. Le football espagnol, je pense qu'il va nous faire vivre un enfer pendant encore un moment, honnêtement. Donc voilà, je pense avoir fait assez le tour pour 7 euros. On va maintenant passer au Tour de France avec PA.
À la fin de l'Euro, on a même eu le droit à une superposition entre deux gros événements. L'Euro, donc, d'une part, et également le Tour de France. Alors, chaque année, le Tour de France fédère des dizaines de millions de personnes à travers le monde et sur le bord des routes, autour des paysages à couper le souffle et de la liesse autour de la plus grande course cycliste du monde. Cette année encore, la tradition n'a pas été rompue. Malgré des dates légèrement décalées dues aux Jeux Olympiques, le public s'est massé en nombre partout en France et même ailleurs, comme en attestent les images folles du départ en Italie. Alors oui, on a eu les Jeux Olympiques, dont on reparlera un petit peu plus tard, et on s'est régalé devant. C'est vraiment pas moi qui vais dire le contraire. Mais une semaine avant le début de ces Jeux Olympiques, on a eu le droit à un des meilleurs Tours de France de ces dernières années, je le dis sans aucune hésitation. Alors certes, il n'y a eu que très peu de suspense quant au vainqueur final, mais ça n'empêche pas que c'était incroyable. Le Tour de France 2024 va donc s'élancer le 29 juin, avec déjà un premier gros test et cette étape entre Florence et Rimini et ses 3800 mètres de dénivelé positif. Alors, avant de poursuivre, il nous faut ajouter un personnage à notre histoire. Les suiveurs du cyclisme le connaissent parfaitement. Il s'agit de Romain Bardet. Normalement, vous connaissez Romain Bardet. Est-ce que vous connaissez Romain Bardet?
Tout le monde connaît Romain Bardet.
Ok, bon. Petit topo quand même pour ceux qui savent pas, Romain Bardet il fait facile partie des deux meilleurs coureurs français de ces 10 dernières années. C'est un des seuls à avoir tenu tête au grand Christopher Froome à son prime, et c'est le français qui a été le plus proche de remporter enfin le Tour de France, puisqu'il est monté à 2 reprises sur le podium en 2016 et 2017. À l'aube de l'édition 2024, l'Auvergnat de 33 ans a d'ores et déjà annoncé qu'il s'agirait de son dernier Tour de France avant une retraite plus que méritée. Cependant, en avril, il termine encore deuxième de Liège-Bastogne-Liège, une des plus grandes courses du calendrier professionnel. Donc, il est vieux, mais il a toujours les cannes. Mais donc, qu'a-t-il à jouer sur ce Tour de France, Romain Bardet? Alors, vous en faites pas, on va très très vite avoir la réponse. À 50 km de l'arrivée de cette première étape, alors que 3 hommes ouvrent la route, Romain Bardet place un démarrage et s'extirpe du peloton principal pour rejoindre les hommes de tête, dont Frank Vandenbroek, son coéquipier. Les 2 coureurs de l'équipe DSM Firmenich vont se débarrasser de leurs 2 autres compagnons d'échappée et tenter de résister au retour du peloton. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Au bout de l'effort, Romain Bardet franchit la ligne d'arrivée en vainqueur devant son jeune coéquipier, Frank Vandenbroek. Scénario improbable pour son dernier Tour de France, Romain Bardet s'impose et enfile le maillot jaune pour la première fois de sa carrière. Et le lendemain, nouvelle victoire française avec celle de Kevin Vauquelin, qui dispute, contrairement à Bardet, son premier Tour de France et qui s'impose en solitaire en s'étant débarrassé de ses compagnons d'échappée pour offrir à son équipe, la Arkéa Samsic, son premier succès sur le Tour de France. Romain Bardet va quant à lui perdre son maillot jaune au profit de Tadej Pogacar, dont on reparlera. Nouvelle étape, nouvelle histoire. Sur la 3e et première étape de sprint, Binyam Girmay s'impose et devient le premier coureur noir à en remporter une étape sur le Tour de France et offre aussi sa première victoire sur le Tour à son équipe, la formation Intermarché Ganti. Alors Binyam Girmay, petite parenthèse, c'est un coureur vraiment à part, qui représente beaucoup de choses dans son pays, en Érythrée, donc il mérite d'avoir une chronique à part entière. Bon, là, on va commencer à taper dans le dur. Pour la 4e étape, les organisateurs ont prévu une petite surprise, le col du Galibier, et c'est assez rare qu'on ait un gros col comme le Galibier si tôt dans la course. Avant de poursuivre, il nous faut revenir un peu en arrière. Le 4 mars, lors du Tour du Pays Basque, Remco Evenepoel, Primoz Roglic, mais aussi et surtout Jonas Vingegaard, double vainqueur sortant du Tour de France, sont victimes d'une grosse chute à une 50aine de kilomètres de l'arrivée de la 4e étape. Le verdict va rapidement tomber pour le Danois, pneumothorax, fracture à répétition et une participation plus que compromise pour le Tour de France, où il est le principal candidat à sa succession. Vous l'aurez compris, sa participation au Tour de France est déjà une victoire en soi. Dans le même temps, son principal rival, Tadej Pogacar, vainqueur à 2 reprises du Tour en 2020 et 2021, a écrasé le Tour d'Italie avec près de 10 minutes d'avance sur Daniel Felipe Martinez, deuxième, et en enlevant 6 étapes sur les 21, le ratio est pas trop mal, je vous laisse faire le calcul. Ainsi, si le Slovène remporte le Tour de France, il deviendra le premier à faire le doublé Giro Tour de France depuis 1998 et Marco Pantani. Revenons donc à cette 4e étape. Dans le col du Galibier, l'équipe de Pogacar, la UAE Team Emirates, va imprimer son rythme dans la montée jusqu'à ce que le Slovène ne porte son démarrage au sommet. Vingegaard va réussir à s'accrocher un temps, mais il ne pourra que s'incliner devant la supériorité du Slovène. Pogacar va donc filer seul vers la victoire à Valoir et prendre déjà 37 secondes d'avance sur Vingegaard et ses autres concurrents. Nouveau personnage, Mark Cavendish. À 39 ans, le Britannique est certainement le plus grand sprinteur de tous les temps. Champion du monde, des victoires sur le Tour d'Italie, sur le Tour d'Espagne, une victoire sur la Primavera Milan-San Remo et surtout 34 victoires d'étape sur le Tour de France. L'ennui, c'est que Eddy Merckx aussi, il a 34 victoires d'étape sur le Tour de France. Donc ça marche pas, il faut départager les deux. Et cette 35e victoire, c'est tout l'objectif du Manx Missile et de son équipe, la Astana. Cette équipe, elle lui est entièrement dévouée, après l'échec de cet objectif l'année dernière. Sur la 5e étape, le Britannique va déboucher de la roue de Pascal Ackermann à 150 mètres de la ligne, partir sur le côté gauche et terminer tout le monde au sprint. Alors certes, il a plus forcément les meilleures jambes, mais ça fait aucun doute que c'est le sprinter le plus intelligent du peloton. 35e victoire sur le tour, record absolu, vous allez faire quoi? On va accélérer un peu, parce que sinon on en a pour 10 ans. Passer outre les victoires de Dylan Groenewegen, de Remco Evenepoel qui remporte sa première étape sur le Tour, de Binyam Girmay qui s'impose véritablement comme le sprinter en forme sur les routes françaises, d'Anthony Turgis qui ramène à la France sa 3e victoire d'étape et de Jasper Philipsen qui trouve enfin l'ouverture après avoir été tenu en échec pendant 10 jours. 11e étape, nouvelle étape de montagne. Dans un premier temps, on va croire à un scénario similaire à l'étape du Galibier, avec l'équipe UAE qui va rouler et Tadej Pogacar qui va attaquer avant la descente. Mais le Lioran, ça n'est pas le Galibier. Le Slovène va effectivement lâcher tout le monde dans l'avant-dernière ascension de la journée, Mais cette fois, Vingegaard va réussir à rentrer sur le Slovène, tenir sa roue et va même se payer le luxe de le fumer au sprint. Victoire à la pédale, mais aussi et surtout mentale pour le Danois, sur son adversaire slovène qui semble finalement prenable, ce à quoi on ne pouvait pas croire jusqu'à présent. Ce qui semblait à première vue être un véritable point de bascule de ce Tour de France, le début d'une vraie lutte entre les deux meilleurs coureurs du monde, va finalement s'avérer être un gros coup d'épée dans l'eau. Vingegaard ne pourra pas lutter lors des autres étapes de montagne et va laisser Tadej Pogacar écraser cette fin de tour. Hormis la victoire du champion olympique Richard Carapaz, qui du coup ne l'est plus, lors de la 17e étape, Poggi va s'imposer lors de toutes les étapes de montagne et également remporter le contre-la-montre final dans les rues de Nice pour remporter son troisième Tour de France. Alors il n'y a pas eu de suspense. Tadej Pogacar a écrasé ce Tour de France comme il a écrasé cette saison et fait sans aucun doute partie des meilleurs coureurs de l'histoire de notre sport. Les échappées n'ont pas non plus été forcément en réussite et la course a été longtemps cadenassée par la stratosphérique formation UAE Team Emirates. Mais malgré tout ça, quel tour magnifique on a eu. Pourquoi ? Parce qu'on a assisté à l'une des plus grandes performances de tous les temps. Parce que Tadej Pogacar est un coureur autant attachant que pénible de facilité. Parce que Romain Bardet a quitté la course qu'il a fait naître de la plus belle des manières possibles. Parce que Binyam Girmay, érythréen, remporte le maillot vert et c'est exceptionnel. Parce que Mark Cavendish a enfin remporté cette 35e victoire qui lui manquait. Parce qu'on a vu Jonas Vingegaard se battre comme rarement il s'est battu et pas pour la gagne. Et parce que, vas-y, le Tour de France, c'est incroyable quoi. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, Tadej Pogacar a remporté ce Tour de France 2024 devant Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Binyam Girmay a remporté 3 étapes et le classement de meilleur sprinter. L'équatorien Richard Carapaz a enlevé le maillot à poids après un travail extraordinaire de toute son équipe. Et les Bleus sont allés chercher 3 magnifiques victoires d'étape. L'année prochaine, départ de Barcelone en espérant que ce soit autant incroyable que depuis 5 ans parce qu'on se régale. Et maintenant, on peut continuer notre rétrospective jusqu'au basket et Simon qui va vous parler Euroleague et NBA.
Rebonjour, moi je vais d'abord vous parler de l'Euroleague. Avec l'Euroleague, on a pu assister à un Final Four d'exception, qui regroupait 4 équipes pour les demi-finales et la finale. Le Final Four il était situé à Berlin, et on a eu le droit à des matchs totalement fous. Au final, c'est le Panathinaikos du français Mathias Lessort qui remporte la finale face au champion en titre du Real de Madrid. C'était un match assez imprévisible, étant donné de la domination de l'Euroleague toute l'année, mais l'équipe grecque du Panathinaikos n'a laissé aucune chance avec une adresse absolument folle aux Madrilènes. Le français Mathias Lessort, adoré du public partout où il passe, gagne donc sa première Euroleague aux côtés du mythique coach Ergin Ataman. Côté NBA, c'est les Boston Celtics qui remportent leur 18e titre NBA face aux Dallas Mavericks. Ils remportent la série 4 victoires à 1. Contrairement aux attentes, c'est Jaylen Brown qui rafle toutes les récompenses individuelles devant Jason Tatum, la star de cette équipe. Malheureusement, Jaylen Brown, malgré ses super performances, va se faire snobber par la Team USA juste avant la convocation de l'effectif pour les JO. C'est tout pour moi, je vous ai présenté les deux derniers vainqueurs des grandes compétitions de basket. Je passe maintenant la parole à Oban qui va vous parler de tennis.
Alors moi, je vais vous parler de la 4e et dernière étape de la tournée du Grand Chelem de tennis, l'US Open, dont vous avez sûrement entendu parler, ou pas. Près d'un mois s'est écoulé depuis la fin de la célèbre quinzaine américaine, presque passée inaperçue. En effet, Eurosport la qualifie même de « tout petit US Open » qui ne restera probablement pas dans les annales comme une édition d'exception. On vous explique pourquoi. Le tournoi de Flushing Meadows est attendu chaque année avec impatience par les fervents passionnés de tennis. Son statut de majeur aux côtés de Roland-Garros, l'Open d'Australie ou encore Wimbledon fait de lui un événement incontournable. Toutefois, quelques obstacles ont nui à sa popularité cette année. Tout d'abord, en cette période estivale, les feux des projecteurs étaient dirigés en grande partie sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, une opportunité rare pour la France lorsque l'on sait que les derniers Jeux français remontent à 97 ans en arrière. De ce fait, l'effervescence du moment a placé l'US Open légèrement dans l'ombre. Par ailleurs, la participation et le parcours honorable de Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, qui a donné lieu à une grande finale à ces Jeux, peuvent être la cause de leur sortie prématurée. Avec l'élimination du Serbe, la série active depuis 2003 d'au moins un grand chelem par an remporté par un membre du Big Three, Federer, Nadal, Djokovic, a pris fin. Son absence étonnante en deuxième semaine a laissé médias et spectateurs qui ne s'intéressent pas à la nouvelle génération sur leur faim, rendant la 144e édition de l'US Open presque invisible. S'ajoute à cela une finale masculine décevante avec une victoire écrasante et logique du numéro 1 mondial Yannick Sinner face au local Taylor Fritz. L'Italien en pleine tourmente depuis la révélation du double contrôle positif de dopage au Closed Table a été particulièrement critiqué ces dernières semaines, malgré le fait qu'il ait été innocenté par un tribunal indépendant. En revanche, côté féminine, on assistait à une finale de haute volée entre la numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka et l'américaine Jessica Pegula. Si on reprend les mots des plus grands médias sportifs, il s'agissait probablement de la plus belle finale en Grand Chelem chez les filles cette année. Enfin, le décalage horaire conséquent entre les États-Unis et un pays européen a découragé de nombreux téléspectateurs à suivre le Grand Chelem. D'après l'équipe, Novak Djokovic lui-même a critiqué l'horaire de sa rencontre qu'il a jugé trop tardif, surtout à son âge. Certaines des grandes affiches, telles que le quart de finale entre Yannick Sinner et l'ancien numéro 1 mondial Daniil Medvedev, une finale avant l'heure, débutaient en night session à 3h10 du matin. Sachant qu'un match en Grand Chelem dure en moyenne 2h30, ces horaires tardifs ont grandement contribué à la baisse des audiences de l'US Open 2024.
Qui dit récap, dit Jeux Olympiques et Paralympiques. Cette année, nous avons eu la chance d'accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques en France. Donc on ne pouvait pas passer à côté, c'était ultra médiatisé et les athlètes étaient très présents sur les réseaux sociaux. On pensait que c'était très important de parler des moments qui nous ont le plus marqués en fait durant cet événement. Donc allez, c'est parti. D'ailleurs Simon, toi, qu'est-ce qui t'a marqué durant ces JO ?
Pour moi, c'est le rugby à 7 parce que la cérémonie d'ouverture n'avait pas encore eu lieu et on a déjà eu la chance de voir des super beaux matchs avec une équipe de France qui nous a régalé dès les premiers matchs.
On a eu la chance d'accueillir dans l'équipe Antoine Dupont, grand joueur du top 14.
Bah, Antoine Dupont qui a d'ailleurs été élu meilleur joueur du top 14 de l'année il y a quelques jours là.
Effectivement.
Meilleur joueur du rugby aussi du monde, non,
il me semble. Je crois pas encore. Pas encore.
D'ailleurs, il est en train de faire des essais en NFL ces derniers temps. Voilà, il touche à tout, du grand Antoine Dupont. Donc voilà, donc ça commence, première médaille pour les Français, à peine la cérémonie d'ouverture faite. Ensuite, il y a eu plein d'autres sports et on peut peut-être rester sur le thème du sport collectif avec le football. Alors honnêtement, je pense que personne ne s'attendait à voir l'équipe de France aller aussi loin dans l'aventure.
Bah c'est ça, on connaît Thierry Henry, on sait que c'est un meilleur joueur qu'entraîneur. On a vu ses dernières expériences avec la Belgique, avec Monaco. Donc on se disait, bon, même s'il y avait une équipe sur le papier assez sexy, c'était pas gagné d'avance qu'on aille en finale. Finalement, on est allé en finale et bon, on a perdu, mais c'était quand même incroyable. Parcours de fou. Hein.
Surtout quand même qu'il faut revenir sur le contexte. Thierry Henry a eu vraiment du mal à construire une équipe parce que malheureusement, les gros clubs européens ne sont pas du tout ouverts à prêter leurs joueurs. Et je trouve ça d'ailleurs extrêmement dommage parce que ça enlève vraiment de la hype.
Ouais, c'est vraiment dommage parce que les Jeux Olympiques, c'est censé rassembler les plus grands sportifs de la planète. Et là, on a Kylian Mbappé typiquement qui voulait faire les JO et qui n'a pas pu parce que son club l'a bloqué. Donc c'est vraiment dommage.
Donc voilà, donc on est reparti avec une deuxième médaille, une médaille d'argent bien méritée. Bravo à eux, aux petits jeunes.
C'était l'occasion aussi de prendre notre revanche contre les Argentins lors d'un match éliminatoire. Donc
c'est vrai que c'est un match qui a eu énormément d'engouement.
Un petit bonus toujours sympa.
Émotionnel.
Très émotionnel. On a eu d'autres finales en sport collectif, notamment au basket. Alors là, vraiment, il y a plein de choses à dire au basket. On va commencer par les masculins, donc notamment avec une finale France-États-Unis. Elle était tellement attendue, cette finale. Vraiment, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai archi kiffé. Alors certes, malheureusement, on a vu une véritable domination des USA, ce qui n'était pas très étonnant, mais je trouve quand même que les Français se sont bien battus et méritent leur médaille d'argent.
En tant que fan de basket, c'est satisfaisant de voir la finalité de leur compétition parce qu'ils restaient sur une dernière campagne internationale absolument catastrophique, malgré une équipe XXL avec encore une fois de très très bons joueurs. Et encore une fois, les fans de basket ont eu de quoi vibrer pour les JO parce que même lors des matchs de préparation, l'équipe de France, elle enchaînait les défaites. Pour une compétition telle que les JO à domicile, l'attente, elle était très très haute, surtout que Wembanyama, il faisait son arrivée dans le groupe. Comme on a pu le voir lors des interviews post-JO, Nicolas Batum et Evan Fournier, ils ont vraiment mis un point d'honneur sur le fait de passer de Lille à Paris, parce qu'il faut préciser que les phases de poule des JO, que ce soit pour les masculins et féminins, elles étaient situé à Lille au stade Pierre Mauroy. Et donc il y a un vrai déclic de la part des joueurs français en allant à Paris qui leur a permis peut-être de tout casser pour avoir une finale magnifique contre les États-Unis.
Il y a eu une autre finale du coup contre les États-Unis avec les féminines. Alors je voulais vraiment revenir sur ce match parce que j'ai trouvé très intéressant. On a vu une bonne domination des Françaises durant ce match. Malheureusement, tout à la fin, ça a fini avec une victoire états-unienne aussi. Mais je tiens à dire personnellement que j'ai même préféré ce match au masculin vu le caractère qu'a montré cette équipe française et vraiment comment elles se sont battues jusqu'à la fin. C'est passé à un point.
Bah, c'est surtout qu'elles ont vraiment pour le coup dominé le match. C'est d'autant plus cruel qu'elle perde le point sur un tir au buzzer que Gabby Williams met, mais elle mord la ligne à 3 points, donc le panier est accordé à 2 points et non à 3 points qui aurait permis une prolongation. Donc très cruel.
vraiment juste à ça. Le match, il était fou, il y avait de l'action, il était... Ouais, je me suis éclatée devant.
Elles ont fait
devant.
Une compétition sans faute, franchement.
Vraiment.
Elles ont dominé quasiment tous les adversaires qu'elles ont eus. Elles ont perdu un match, mais franchement, c'est une compétition de dingue. Elles ont tout cassé. Très grande satisfaction et on les attend pour la suite.
Après, ça va, on a réussi à se consoler pas trop mal avec les Bleus du Volet, qui sont allés chercher leur deuxième titre olympique. C'est absolument incroyable. C'est complètement fou ce qu'ils ont fait. Donc voilà, franchement, petite consolation, pas trop mal.
Au moins une médaille d'or de ce côté, c'est déjà ça.
Ouais.
Surtout quand on voit la remontada qu'ils ont...
Bah c'est ça, ouais. Ouais.
Qu'ils ont fait en quart de finale, c'est ça, contre les Allemands.
Ouais.
Contre les Allemands, ouais. Mais du coup, ouais, c'est absolument incroyable ce qu'ils ont fait. Doublé olympique, alors que bon, ils sont bons, mais c'est pas non plus les meilleurs du monde.
C'était pas les favoris.
Bah c'est ça. Donc voilà, faire ça à domicile en plus, c'était la folie.
Et pour ceux qui l'ont regardé à la télé, on a eu la chance de voir l'émotion du commentateur qui était l'ancien coach de l'équipe de France. Lui aussi médaillé olympique.
Le handball, c'était pour dire que par contre, au handball, une médaille était vraiment attendue et au final, ça a été vraiment la grosse déception pour tout le monde.
Un petit flop, hein.
Ouais, c'est vraiment dommage parce qu'en plus, c'était les derniers matchs de Nicolas Karabatic. Donc,
il sort par la petite porte, malheureusement.
C'était vrai, c'était vraiment une compétition moyenne, même catastrophique pour eux. Tous les matchs, ils ont été dominés. Ouais, franchement, c'était pas l'équipe de handball habituelle.
Bah c'est ça, ils sont champions olympiques, on les entend en tournant, c'est les meilleurs du monde depuis des années. Donc c'est vraiment dommage, d'autant plus que c'est pas comme si ils avaient dominé la phase de poule et qu'ils s'étaient plantés dès qu'arrivent les phases finales. Non, ils se sont fait péter pendant tous les matchs.
Ouais, tout le long, il y a pas un bon match fait de leur part.
Ouais, c'est vraiment dommage.
On a pu se consoler avec l'équipe de France féminine qui, elle, repart avec la médaille d'argent. Donc, ça rehausse le niveau.
Et d'ailleurs, en parlant d'équipe de France féminine, j'avais oublié de faire une petite parenthèse sur l'équipe de France de football féminine. Et bah pareil, c'est très décevant. Franchement, je les attendais même peut-être à faire une finale. Mais comme d'habitude, elles se sont retrouvées bloquées face à leur malédiction. Impossible pour elles de dépasser les quarts ou les demi. C'est toujours comme ça. Jamais une seule finale. Voilà, donc vraiment, je suis encore très déçue d'elles. Très déçue du coach Renard. Vraiment, je m'attendais à voir un nouveau visage de l'équipe de France. Et franchement, ouais, elles ont été très décevantes, même si je les porte encore dans mon cœur. Et je crois en elles. Je les attends, je suis sûre qu'elles vont faire mieux aux prochaines compétitions. On ne peut pas faire de récap des JO sans parler de natation.
Il y a une véritable révélation aussi en natation, avec Léon Marchand, qui est devenu maintenant un phénomène mondial.
C'est vrai que c'est une explosion au grand public, même si les plus gros suiveurs le connaissaient avec ses championnats du monde et avec aussi les championnats universitaires qu'il a complètement écrasé cette année. Mais c'est vrai que là, il a complètement explosé Léon Marchand. On attendait quelques médailles, mais de là en avoir quatre et puis deux le même soir, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il a fait.
Et puis au-delà des médailles, il a aussi battu tout simplement le record olympique, rien que ça, précédemment détenu par Michael Phelps.
Pardon, hein, désolé.
Ouais, il faut savoir aussi qu'il a le même entraîneur que Michael Phelps. C'est cool que ça soit un autre poulain du même entraîneur.
Et puis c'est assez fun aussi de voir que Michael Phelps était complètement fou devant les prestations de Léon Marchand. Il était complètement dedans et tout, et il était presque content finalement que Léon Marchand fume ses records, quoi.
Est-ce qu'il va battre d'autres records olympiques à votre avis ?
C'est une évidence pour moi.
Très certainement.
Bah c'est ça, il a quoi ? Il a 22 ans donc...
C'est ses premiers JO.
Quand on voit sur la course où il bat Christopher Milak... La gestion de ses efforts, pour moi, il peut que tout casser dans les années à venir.
Alors, il y a évidemment les 4 médailles d'or, mais il y a quand même une petite déception. Parce que franchement, on attendait 5 médailles d'or. Moi, j'attendais 5 médailles d'or. Mais il a ramené quand même une médaille de bronze en plus avec le relais 4x100 mètres, 4 nages hommes avec donc l'équipe de France. Et notamment Florent Manaudou qui a réussi aussi à ramener une médaille de bronze sur le 50 mètres nage libre. Ce qui est complètement exceptionnel parce que sur une discipline comme ça où ça va très vite, rester au haut niveau comme ça, comme il l'a fait, c'est vraiment fou. Et puis, mention spéciale aussi à Anastasia Kirpichnikova qui a aussi une belle révélation pour oui. L'équipe de France et qui est allée chercher la médaille d'argent sur le 1500 mètres. Nage libre femme.
D'ailleurs, elle a une très belle histoire, cette nageuse.
Ouais.
Je vous invite à aller vous renseigner sur elle.
Et donc voilà, médaille d'argent battue uniquement par Cathy Ledecky. Donc ça va, c'est pas trop mal.
En parlant de révélation, on peut pas passer à côté de Johan Benjamin Gaba, le jeune judoka qui remporte la médaille d'argent en moins de 73 kilos, qui nous a fait vibrer aussi tout au long de la compétition, notamment lors de la finale par équipe, aux côtés de Teddy Riner, le grand qui nous a encore régalé et a raflé sa 4e médaille d'or olympique.
C'est vrai que ce jeune judoka, il était vraiment pas du tout attendu au tournant. Il était pas du tout dans les favoris. Donc tout le monde était hyper hypé par sa médaille d'argent.
Oui, puis surtout qu'il a failli ne pas être sélectionné pour ses JO, hein, il faut le rappeler.
Ouais, c'est ça, il était remplaçant. Et puis aussi à mentionner que avant son intervention dans le concours par équipe en judo, la France, elle se faisait un peu torpiller par le Japon. Donc c'est vraiment son match qui a été un point de bascule jusqu'à ce scénario incroyable et la roulette qui tombe sur Teddy Riner pour nous offrir cette magnifique médaille d'or.
C'était écrit.
Mais pas truqué.
Jamais. Mais du coup, voilà, la transition est toute trouvée pour parler du judo, qui a encore été un gros pourvoyeur de médailles pour l'équipe de France, même si on aurait pu s'attendre à plus de titres, notamment Clarissa Agbegnénou ou Romain Dico. Voilà, en tout, ça fait 10 médailles pour la délégation tricolore en judo, ce qui est vraiment pas trop mal.
C'est énorme même quand même.
Ouais, mais là encore où c'est frustrant, c'est qu'on a quand même 6 médailles de bronze avec des filles notamment qui étaient censées aller chercher la médaille d'or, notamment Amandine Bouchard, on l'a dit, Clarissa Agbegnénou, Romain Dico ou encore Sarah Léonie Cizik qui étaient ultra favorites dans leur catégorie.
C'est vrai.
Donc c'est satisfaisant, mais c'est un peu dommage en même temps.
Bon, essayons de revenir sur une victoire exceptionnelle du côté de l'équipe de France. On pourrait parler peut-être du BMX. Parce que c'était quand même exceptionnel. La victoire, les photos qui sont sorties aussi de cette victoire, enfin, sont exceptionnelles.
C'est historique, tout simplement. Hein.
Mais c'est vrai que, en vrai, c'est historique, mais ça ne sort pas de nulle part. Hein. On a écrasé toute la compétition, on écrase le BMX mondial, avec donc ce triplé de Joris Daudet devant Sylvain André et Romain Mailleux, qui offrent des images historiques et une performance historique pour le sport français.
Les images, elles étaient vraiment belles.
Un triple drapeau tricolore qui monte vers le ciel avec une petite Marseillaise à la fin, franchement, incroyable.
Et ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que la première chose que fait Joris Daudet quand il passe la ligne, c'est regarder s'il y a ses deux potes derrière lui qui sont sur le podium avec lui. Donc c'est vraiment beau, c'est trois potes, donc c'est vraiment super. Il y a le BMX qui a été en réussite, mais globalement, tout le vélo français a été en réussite, avec d'abord Pauline Ferrand-Prévot, qui est enfin allée chercher le titre après des années de galère sur les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'elle surdomine la compétition, elle est un nombre de fois championne du monde, mais c'est complètement aberrant. Et elle avait jamais réussi à être championne olympique. Donc là, voilà, c'est fait. Elle est championne olympique. Devant, on aurait pu espérer un doublé français avec Loana Lecomte, qui, hélas, est tombée. Mais voilà, c'est un peu décevant, mais c'est pas trop grave.
Ouais, grosse chute où elle n'a pas su se relever et elle a dû abandonner la compétition.
Ouais, alors qu'elle était en lice pour le podium, donc c'est un peu dommage.
Elle était troisième ou deuxième?
Elle était troisième.
Troisième, ouais.
Et le lendemain, Victor Koretsky est allé chercher la médaille d'argent derrière Tom Pidcock. Alors Tom Pidcock qui est le nouvel ennemi national de l'équipe de France. Est-ce qu'on pourra revenir sur ce geste un peu litigieux de la part du Britannique qui a empêché Victor Koretsky de se battre pour le titre, mais il a fait une course complètement extraordinaire. Et d'ailleurs, entre les Jeux Olympiques et le moment où on enregistre, Victor Koretsky, il est devenu champion du monde de la discipline. Donc voilà. Il y a aussi le cyclisme sur piste qui a été en réussite. Enfin, on aurait pu encore une fois espérer plus de médailles avec une médaille d'or pour Benjamin Thomas. Là aussi, ça fait longtemps qu'il tourne autour, donc c'est vraiment mérité. Et puis surtout en cyclisme sur route, où là, je vais pas vous mentir, il y a une petite larme qui a coulé, puisque Valentin Madouas et Christophe Laporte ont complété le podium derrière Remco Evenepoel, l'intouchable Remco Evenepoel, qui s'est débarrassé de Valentin Madouas dans le dernier tour et qui est allé chercher son titre olympique.
J'aimerais bien revenir sur une victoire qui n'est pas française, mais algérienne, au bar asymétrique, parce qu'elle a quand même beaucoup fait le tour sur les réseaux sociaux. Donc c'est celle de Kelyam Nemour, qui décroche l'or. Donc elle a 17 ans, c'était ses premiers JO. Et en fait, elle a décidé de concourir pour l'Algérie à cause de la fédération française qui n'avait pas accepté qu'elle reprenne les compétitions après une opération du genou. Donc c'est vraiment une belle revanche d'avoir choisi le pays de son père et justement de gagner l'or en France. Vraiment, je tiens à dire bravo à elle et j'espère qu'elle va continuer à nous impressionner parce qu'à 17 ans, elle a encore le temps.
Enfin, on peut pas parler des Jeux Olympiques de Paris 2024 sans aborder les frères Lebrun qui nous ont fait vibrer aussi tout au long de ces JO, avec une petite déception pour Alexis Lebrun, le grand frère de la fratrie qui n'a pas pu avoir de médaille individuelle, mais il a quand même pu se consoler avec une médaille de bronze aux côtés de son frère en battant le Japon.
Et il faut aussi parler de l'escrime qui a encore une fois, comme d'habitude, nous a ramené beaucoup de médailles, mais là encore un seul titre, ce qui est un peu frustrant, avec Manon Impitty-Brunet qui a battu Sarah Balzer, donc un doublé français, en finale du sabre individuel. Mais on a eu aussi les médailles de Oriane Malo-Breton, de Yannick Borel et encore des équipes de France.
Après un gros récap de ces Jeux Olympiques, nous allons passer aux Paralympiques. Parce que pareil, il y a beaucoup de choses à dire. Au-delà de l'ultra-médiatisation grâce aux réseaux sociaux, on a eu une compétition hyper émouvante avec des histoires d'athlètes. Hyper émouvante aussi d'ailleurs, du coup. Donc voilà, c'est parti pour cette petite rétrospective.
Alors déjà, on peut parler de la boccia. C'est un sport que beaucoup, je pense, ont découvert, avec notamment Aurélie Aubert qui a remporté la médaille d'or, ce qui est complètement fou. Et puis, il y a ces images de elle complètement en larmes quand elle apprend qu'elle est championne olympique, qui ont un peu marqué les gens. Donc voilà, première chose dont il fallait absolument parler.
Les photos qui ont tourné étaient vraiment hyper émouvantes et c'est vraiment la première victoire française dans cette discipline. Donc c'était deux fois plus historique.
Je pense qu'on peut aussi parler du sissifoot, d'abord qui jouait dans un lieu incroyable au pied de la Tour Eiffel et qui s'est terminé en beauté, tout simplement, nous ramenant une superbe médaille d'or, enfin dans une ambiance absolument incroyable, quelque chose qu'on n'avait jamais vu, qu'une ferveur française. On a vu des holas silencieuses pour respecter les joueurs en plein match, tout simplement. Donc franchement, beaucoup d'émotions devant ce sport que beaucoup de gens ont pu découvrir aussi.
Il y a eu vraiment un big engouement autour de ce sport et ça fait vraiment plaisir.
On a eu donc ces surprises-là, notamment en boccia et en sissifoot, mais il y avait aussi des valeurs sûres où on savait, où on pouvait se douter qu'on allait avoir des médailles, notamment avec Alexis Anquincan en triathlon qui était porte-drapeau de la délégation tricolore. Et puis aussi avec Alexandre Léauté qui a complètement écrasé les épreuves de paracyclisme sur route comme toute l'équipe de France globalement. Avec notamment Kevin Lecunf, Florian Joigny, Mathieu Borédon. Donc voilà, les valeurs sûres ont bien performé au JO et ça c'est super.
Personnellement, ce qui m'a marqué dans ces Jeux Paralympiques, c'est Rosario Murcia Gangloff. Elle est la doyenne de la délégation française pour ces Jeux. Elle a décroché sa qualification pour le marathon, sachant que c'est une vraie pistarde. Et le plus inspirant dans son histoire, c'est qu'elle a déjà participé aux Jeux de Barcelone en 1992 en tant qu'athlète valide. Alors elle n'a pas décroché la médaille à ce marathon, mais elle a dégoté une belle quatrième place avec ses deux guides, dont son mari Gilles Gangloff et Mathieu Leroux. Alors pourquoi est-ce qu'elle est en paralympique alors que c'était une athlète valide ? Eh bien, à la suite d'une déshydratation massive au championnat d'Europe d'Helsinki en 1994, Rosario avait subi un décollement de la rétine, puis deux glaucomes entraînant la perte progressive de sa vue. Son œil droit ne voit plus rien, tandis que c'est très trouble du gauche, au point de ne pas distinguer les reliefs. Donc c'était un vrai défi, ce marathon, qu'elle a honoré, je trouve, avec ses deux guides.
Enfin, on aimerait quand même faire un petit hommage à de nombreuses athlètes féminines paralympiques qui ont participé justement à ces Jeux paralympiques suite à une blessure causée par des tentatives de féminicide, notamment l'archère Tracy Otto, qui a été laissée pour morte par son ancien compagnon après qu'il lui ait sectionné la moelle épinière, donc elle est paralysée à vie. Et son ex-compagnon s'en est aussi pris à son nouveau petit ami de l'époque à ce moment-là, qui est d'ailleurs toujours à ses côtés. Et donc, on voulait vraiment rendre hommage à ces femmes-là qui ont réussi à se relever et se battre et à participer aux Jeux paralympiques. C'est totalement exceptionnel. En parallèle, on voulait aussi rendre hommage à la marathonienne ougandaise Rebecca Cheptegei, qui est décédée début septembre suite à un féminicide de son compagnon qui l'a tout simplement brûlée vive. Donc c'est vraiment une triste nouvelle et on voulait absolument que ça reste dans la lumière et dénoncer tout simplement le nombre de féminicides qui sont de plus en plus fréquents malgré l'évolution de la société. Bon, je crois que les gars, on a fini. Hein.
Ouais, on a fait le tour, hein, franchement, c'est cool.
Donc voilà, c'était un petit récap de toutes ces compétitions qu'il y a eu cet été. Il y en a eu des choses. Franchement, je pense que tout le monde a eu son compte. Bon, malheureusement, on n'a pas pu parler de tout. Ça fera déjà une bonne grosse émission pour cette première de l'année. De toute façon, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Time Out. Et puis donc, à la prochaine.
Bye.
Ciao.
Salut.